Ce matin, on s'en va dans un passage qui va nous parler à la fois de la crucifixion et de la résurrection, les deux à la fois. Juste pour se situer, on est le 17 avril, dimanche 17 avril 2022, après Jésus-Christ. Ça dit quand même quelque chose, n'est-ce pas? Et on va célébrer ensemble la Pâque parce qu'il y a près de 2000 ans, Jésus de Nazareth, Jésus le Christ, le Messie, le Sauveur des Juifs, le Roi des Juifs, est venu et il est mort sur la croix le vendredi, il est ressuscité d'entre les morts le dimanche. Et nous ne célébrons plus la Pâque juive. Donc, les Juifs attendaient la venue de leur Messie, mais quand Jésus de Nazareth est venu, cette Pâque-là a été accomplie en Jésus-Christ. Donc, nous fêtons la Pâque chrétienne, ceux qui ont reconnu que Jésus de Nazareth était vraiment ce roi, ce Messie qui avait été annoncé depuis des siècles par les prophètes, qui était attendu et qui vient mourir sur la croix pour les péchés des hommes, ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Écoutez, c'est le moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. De toute l'histoire de l'humanité, si Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ revient bientôt et un jour tous les hommes de la terre, quelle que soit notre couleur, quel que soit notre âge, quelle que soit notre croyance, paraîtront devant Dieu et devront répondre à une question, une seule question. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Et c'est ce qu'on va aller voir ensemble ce matin. Et il revient à chaque homme, chaque femme, chaque jeune homme, chaque jeune femme, chaque adolescent, chaque adolescente, chaque enfant, de prendre la décision qu'on veut de croire ou non en Jésus-Christ. C'est une décision qui nous revient à chacun d'entre nous, c'est une décision qui est personnelle. Ce matin, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller avant la mort de Jésus, à la toute fin, lorsqu'il est pendu au bois, parce qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe là. Il va y avoir un échange entre trois crucifiés. Je ne sais pas si ça s'est passé souvent dans l'histoire de l'humanité, mais il va y avoir un échange vraiment spécial entre trois crucifiés, et il y a beaucoup à apprendre dans cet échange-là. Et on peut s'identifier avec l'un ou l'autre des brigands qui a été crucifié en même temps que Jésus-Christ. Et étrangement, dans ce passage-là, il y a énormément d'espoir. Je vous dirais que c'est un des passages les plus chargés d'espoir de toutes les Saintes Écritures, de toute la Bible. On va aller voir ça ensemble ce matin. On va aller dans un mot de prière, puis Danny va venir nous lire le passage des Écritures. Mais Seigneur, notre Dieu, on est assemblés ce matin pour célébrer la Pâque, célébrer ta venue, ta mort et ta résurrection, Seigneur. Seigneur, on veut reconnaître que tu es le Christ, que tu es le Messie, que tu es le Sauveur des hommes. Je prie, Seigneur, de venir nous parler à tout le monde ce matin, quel que soit notre âge, viens nous rejoindre, viens nous toucher, viens nous parler de toi, viens nous parler de nous, Seigneur, qu'à travers ces deux hommes qui ont été pendus au bois à tes côtés, Seigneur, on puisse chacun choisir à quelque part notre camp, notre position, notre posture à ton égard, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es merveilleux, tu as bouleversé ma vie à tout jamais, tu as changé ma vie, Seigneur, tu as rempli ma vie d'espérance. Pour moi, Seigneur, la vie ou la mort m'importe peu parce que je sais que j'ai déjà la vie en toi, Seigneur. Et Seigneur, j'ai entendu dans mon cœur, dans mon âme, cette parole aujourd'hui. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, Seigneur. Je prie de nous parler ce matin par la puissance de ta parole. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.
Le passage biblique de ce matin est tiré de Luc au chapitre 23, les versets 26 à 49, à la nouvelle édition de Genève. Donc, Luc 23, les versets 26 à 49. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où l'on dira, « Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, « Tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur. » Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui présentant du vinaigre, ils disaient, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifié l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui sera avec moi dans le paradis. » Il est environ la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné, depuis la Galilée, se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait.
Merci, Danny. Alors évidemment, c'est pas quelque chose avec laquelle on est familier nécessairement, la crucifixion. Je ne veux pas prendre ça pour acquis non plus de votre côté. Pourtant, pour les Romains, c'était une pratique commune. C'était un moyen de garder un contrôle sur la population. Israël est sous l'Empire romain, et donc les Romains pouvaient crucifier comme ça soit des ennemis de l'État ou soit des gens qui avaient commis de grands crimes. C'était assez puissant comme enseigne publicitaire, n'est-ce pas? Lorsque tu arrives en ville et tu as 30 crucifiés, ce qui n'était pas rare du tout, sur le chemin pour rentrer dans la ville. Mais là, dans ce cas-là, c'était une scène très différente parce qu'on a cet homme qui avait fait énormément de bien en Israël, partout en Israël, qui était apprécié, mais il y avait eu une prise de bec, des prises de bec à l'infini avec les chefs religieux. Et finalement, les chefs religieux qui n'ont pas reconnu en lui le Messie ont vraiment conspiré contre lui et ont obtenu des Romains de le crucifier, de le mettre à mort avec des criminels, avec des brigands. La crucifixion était une manière d'humilier un homme par une mort qui était une agonie qui était extrêmement longue. Et Jésus a été crucifié comme ça, entre deux brigands. Et nous, on sait maintenant que Jésus est ressuscité le troisième jour. On connaît la suite de l'histoire, on connaît la fin de l'histoire. Mais à ce moment-là, il y a seulement Christ qui sait ça. Et on va voir comment la foule agit, comment les brigands agissent. Et on va chercher, nous, dans nos cœurs, ça aurait été quoi notre attitude? Comment toi, tu aurais agi si tu avais été là ce jour-là? Et je vais le dire comme ceci parce que c'est difficile à concevoir à notre époque, dans notre culture, mais je vous assure qu'il y avait des enfants qui étaient là cette journée-là. Parce que pendant très longtemps, les exécutions, et encore aujourd'hui, lorsqu'il y en a dans certains pays, lorsqu'il y a des exécutions publiques, tout le monde assiste à ça. Et donc, il y avait des enfants qui étaient présents et qui assistaient. Tout le monde ici peut se poser la question, comment aurais-tu agi si tu avais été présent cette journée-là? Quelle aurait été ton attitude? Est-ce que tu te serais joint à ceux qui se moquaient de Christ, qui le méprisaient, ou est-ce que tu aurais été troublé de voir sa bonté? Ce matin, je résumerai l'exposé comme ça. Jésus désire nous pardonner et nous amener avec lui dans son royaume. Avons-nous l'humilité de nous voir tel que nous sommes et de le voir tel qu'il est? C'est sur cette question-là que tout se joue pour ces deux brigands. Et c'est sur cette question-là que tout se joue pour toi et moi. Jésus désire nous pardonner et nous amener avec lui dans son royaume. Avons-nous l'humilité de nous voir tels que nous sommes et de le voir tel qu'il est? Premièrement, l'arrogance et l'aveuglement du péché. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Et en fait, il n'y avait pas juste ce brigand-là qui se moquait de Jésus, il y avait plein de gens dans la foule qui se moquaient de Jésus. Il y a un phénomène de foule. Dans le passage que Danny vient juste de nous lire, on voit même que la foule va changer de comportement après la mort de Christ. Il y a quelque chose qui va changer. La foule est entraînée à se moquer de Jésus. Ça commence par les chefs religieux qui le méprisent, qui ont réussi leur conspiration de se débarrasser de cet opposant politique. Ils ont réussi à le faire crucifier. Ils sont contents de leur coup. Les soldats sont là, se moquent. C'était des hommes durs, c'était des hommes de guerre. Et ils se moquent de Jésus. La foule embarque, se moque de Jésus. Jusqu'aux deux brigands. Parce que dans l'évangile de Matthieu, on voit que les deux brigands, au départ, se moquaient de Jésus. Puis il y a un changement d'attitude chez l'un d'entre eux. C'est un phénomène de foule. Ces phénomènes-là peuvent arriver à n'importe quel âge, hein? Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, la cour d'école, mais pour moi, la cour d'école, au primaire puis au secondaire, ça n'a pas toujours été très, très intéressant. Certains d'entre vous êtes à l'école, puis vous savez comment ça peut être difficile. Des foules qui deviennent méchantes, ça peut arriver à n'importe quel âge. Moi, lorsque j'étais au primaire, j'étais un ange, selon ma mère. Mais sérieusement, j'étais un petit nerd. Je veux dire, je n'achalais pas personne, je restais dans mon coin avec mes amis. Puis ça a l'air que ça fatiguait du monde, ça. Ça dérangeait du monde. Donc, à plusieurs reprises, après l'école, je me suis fait attendre pour me faire battre. Je me souviens une fois, j'étais dans la cour d'école, je pense qu'on jouait au ballon chasseur. J'étais tellement pas bon dans le sport à cette époque-là, j'ai dû mal jouer. Mais ça a mal fini, cette histoire-là, parce qu'ils ont décidé qu'ils me donnaient une rince. Je me suis fait battre juste parce que j'ai mal joué, tout simplement. Puis ça, c'était mon expérience au primaire. Au secondaire, ça a commencé de la même manière. Je me souviens, mon ami Sébastien Légaré puis moi, on était deux petits nerds dans notre bulle. Notre surnom, c'était « Fruits et légumes » quand on embarquait dans le boss. C'est ça, on se faisait attendre, puis on se faisait battre jusqu'à temps qu'on change de comportement, puis qu'on adopte leur comportement. Phénomène de foule. Le cœur de l'homme est méchant. Puis une foule est souvent un des endroits où nos cœurs sont rapidement révélés. Et peut-être que vous pouvez vous identifier avec mon expérience de l'école. Peut-être que vous pouvez comprendre aussi pourquoi j'aime les arts martiaux maintenant. Mais c'est dans notre cœur. C'est là dans le cœur humain. Jésus a dit une fois une parole très, très sage. Il dit, « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton voisin et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » On a tendance à voir les gens autour de nous comme plus méchants que nous. On regarde une scène comme la crucifixion de Jésus puis on se dit, « Moi, je n'aurais pas fait ça. » Une question que j'ai pour toi, c'est, si tu prends le temps de regarder comment ta génération se comporte, les péchés de ta génération, les égoïsmes, les fautes de ta génération, est-ce qu'il t'arrive de te faire entraîner dans ta génération? Quelle qu'elle soit, là, est-ce que tu es porteur de ces mêmes fautes-là, de ces mêmes péchés-là? Parce qu'on a tendance à voir les autres comme étant pires que nous-mêmes. C'est tellement une belle image, hein? Il dit, pourquoi tu essaies d'enlever la paille? Tu sais, il y a un cheveu dans son œil. Toi, tu as une poutre dans l'œil, puis tu n'es même pas capable de le voir. On regarde des collègues au travail, puis tu sais, pose un jugement. Tu regardes ton frère à la maison, tu regardes ta conjointe, ton épouse, ton époux. On est prompt à voir les fautes chez l'autre. Puis on regarde une foule comme celle-là, puis on se dit, jamais j'aurais fait ça. Aujourd'hui, des fois, c'est sur les médias sociaux. Hein, sur les médias sociaux, on a des phénomènes de lynchage qui se passent comme ça, littéralement. On dirait qu'on se transforme. Tu as comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose, puis tu lis une série de commentaires un peu pas trop fins, puis là, tu sais, il y a comme l'anonymat de dire « je connais pas vraiment cette personne-là », puis elle a eu le malheur de dire quelque chose de maladroit, puis tu vas faire des commentaires, puis dans le fond, tu vas dans le sens de l'ensemble des commentaires. Il y a plein de monde qui se transforme lorsqu'ils sont derrière un clavier, hein? Ils se transforment en troll, puis c'est pas drôle du tout. L'aveuglement du péché. C'est ça qui me frappe dans ce récit-là, c'est que le péché rend aveugle. Le péché nous rend aveugle, puis les péchés de notre génération nous rendent aveugles. Puis on peut embarquer, on peut les endosser sans s'en rendre compte. C'est intéressant parce que ce brigand-là, il n'était pas là pour rien, hein? C'est un criminel. Jésus était là, son crime qu'il avait commis, c'est d'avoir dit qu'il était le roi des Juifs. C'était son crime, c'était pour ça qu'on l'a condamné. Mais eux, c'était des brigands, c'était des criminels, ils avaient probablement tué. Puis il est à côté de Jésus et jamais il va se remettre en question. Jamais l'attitude, le comportement de Jésus va l'amener juste à se remettre en question puis à dire, attends un peu, il n'est pas comme nous. Il est complètement aveuglé par son péché, il est pris dans son arrogance. Puis je trouve que Pâques, c'est l'occasion de regarder si nous, on est arrogants. Si nous, on se laisse entraîner dans des péchés de notre génération, quel que soit notre âge. Est-ce qu'on est capable d'avoir l'humilité en regardant à Christ de se remettre en question nous-mêmes? Il y a un des deux criminels qui va rester complètement arrogant, il va être cinglant avec Jésus, il va joindre sa voix à la voix des soldats, à la voix des chefs religieux. Au Québec, on appelle ça être baveux. Et il va mourir comme ça, pour autant qu'on sache, il va mourir comme ça. C'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie. Il est aveuglé par l'arrogance de son péché. Heureusement, il y a un autre brigand qui est là. J'ai une autre option. Je peux m'identifier avec quelqu'un d'autre. Je peux décider que je ne serai pas celui qui va être arrogant avec Dieu jusqu'à ma mort, mais être celui qui va faire preuve d'humilité. Puis, c'est très étrange, mais pour cet autre brigand-là, écoutez ceci, le jour de sa crucifixion a été le plus beau jour de sa vie. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je dis. Pour un des deux brigands, le jour de sa crucifixion est devenu le plus beau jour de sa vie. Parce que Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». C'est quand même fou, non? Ce gars-là n'a pas eu le temps d'accumuler beaucoup de mérite, là. Il est crucifié. Une des pires morts que tu peux imaginer. Et dans l'éternité, cet homme-là va repasser sa vie. Puis si tu peux aller prendre un petit café avec lui au ciel, tu lui demandes « Hey, c'était lequel le plus beau jour de ta vie? » « Ah, c'était le jour de ma crucifixion. » Parce que si tu es chrétien, que ce soit un jour précis, que ce soit un moment, que ce soit des années, mais ce moment où tu dis, « Hey, moi, je suis né de nouveau, je connais Jésus-Christ. » C'est vraiment un temps glorieux. Je disais tout à l'heure dans ma prière, « Je ne crains pas la mort. » Je ne crains pas la mort parce que je suis déjà vivant pour l'éternité. Pour moi, mourir m'est un gain. Je vais fermer les yeux et je vais les ouvrir dans l'éternité. Et je sais que Christ m'attend sur l'autre rive, parce que depuis des années maintenant, je suis chrétien. Le plus beau jour de sa vie a été le jour de sa crucifixion, parce que c'est le jour où il a rencontré Jésus-Christ. Ce deuxième brigand a été repentant et il est devenu croyant. La différence entre un et l'autre, c'est simplement l'humilité. C'est simplement l'humilité, c'est juste qu'il est devenu comme lucide. C'est quoi être lucide? C'est voir clair, tu sais. Puis la différence entre les deux brigands, c'est qu'il y en a un qui va rester arrogant et aveugle, et il y en a un qui va littéralement ouvrir les yeux. Par humilité, il va réaliser. Regardez ce qui est écrit au verset 40-41. « Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? » Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Maintenant, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on va dans l'Évangile selon Matthieu, Matthieu nous dit qu'au départ, les deux brigands injuriaient Christ. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, hein? Comme on dit au Québec, ou comme on disait au Québec. Ce n'étaient pas des enfants de cœur, ces gens-là, c'était des criminels. C'était des gens qui passaient probablement une grande partie de leur vie en colère. Puis te faire crucifier, c'est rien pour te mettre de bonne humeur. Je pense que ça peut faire sortir ce qu'il y a de plus mauvais en toi. Tu es là, tu es humilié, puis les gens te méprisent. Puis ça va prendre des heures, voire des jours, avant que tu meures. Et donc, au départ, les deux brigands injuriaient Christ. Mais il y a un moment où un des deux brigands a commencé à regarder à Jésus qui était crucifié à côté de lui, ou à côté de lui, je ne sais pas. Il a vu Christ et il s'est vu lui-même. Puis il s'est humilié. En regardant à Jésus, il est devenu lucide. En regardant à Christ, il a pris la mesure de son caractère à lui, de sa personne devant Dieu. En regardant à Christ, il a regardé sa vie et il a dit, « Ça ne tient pas la route, mon affaire. » En regardant à Christ, il a dit, « Lui ne devrait pas être là, mais moi, c'est normal que je sois là. Je suis coupable. Hey, » C'est toute une déclaration. Je ne sais pas combien de gens s'en vont en prison en acceptant leur culpabilité. Je suis sûr qu'il y en a. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs. Mais combien est-ce qu'il y a de gens qui vraiment entrent en prison en disant, « Je suis coupable. J'assume ma faute. J'accepte ma peine. » En regardant à Christ, ce brigand-là, qui était probablement un meurtrier, qui avait insulté Jésus lui aussi, en regardant à Jésus, est devenu lucide. Je ne sais pas si certains d'entre vous ne croyaient pas en Dieu ou ne croyaient pas en Christ, puis si tu es né dans une famille chrétienne, ça ne fait pas de toi un chrétien. Hein? Il y a un moment où toi-même, tu dois prendre des décisions pour toi. Quand tu es jeune, c'est la foi de tes parents. Tu suis, c'est intéressant, mais là, à un moment donné, il commence à avoir des questions. Hey, il y a d'autres options, il y a d'autres religions, il y a d'autres fois. Jésus, je n'ai pas souvent serré sa main. Tu sais, il ne me parle pas souvent. Il faut que je le lise dans un vieux livre qui date. Puis là, tu commences à te poser des questions, puis tu te dis, est-ce que c'est vrai finalement cette affaire-là? Personnellement, j'ai commencé à venir à cette église, dans un autre bâtiment, mais à cette assemblée quand j'avais 7 ans. 12 ans, mes parents se sont divorcés. Ça a remis en question un paquet d'affaires dans ma tête. Puis là, j'ai commencé à me poser la question, « Oui, mais c'est-tu vrai? » Ma mère continuait dans sa foi chrétienne. Puis j'ai commencé à poser les questions, « Est-ce que c'est vrai, cette affaire-là? » J'ai commencé à m'intéresser à d'autres religions, à d'autres philosophies. Cette quête-là a duré de 12 à 18 ans, où je me suis mis à lire puis à aller voir ailleurs. Il y a un homme que j'estime beaucoup qui s'appelle Philip Jansen. J'ai mis sur ma page Facebook une entrevue qu'il a donné en préparation pour la Pâque, puis je vous encourage à aller l'écouter si vous pouvez supporter l'accent australien. C'est mon accent en anglais préféré, mais ce n'est pas facile à comprendre. Mettez les sous-titres, puis allez écouter ça. Puis il y a un moment où John Anderson l'interroge, un ancien premier ministre de l'Australie, un gars super brillant, pose la question à Philip Jansen, qui est un prêtre anglican, un apologète, un défenseur de la foi, puis il lui dit, « Écoute, qu'est-ce que tu dis à des gens qui se disent, j'arrive pas à croire. J'arrive pas à croire en Dieu. J'arrive pas à croire en Jésus. C'est pas que ça m'intéresse pas, j'arrive pas à y croire. » Puis sa réponse était très, très simple. Puis je trouve qu'elle était très pertinente. Il dit, moi, dans ce temps-là, je les encourage juste à aller lire les Évangiles. Juste à aller côtoyer Jésus quelque temps. Quelques heures, aller lire Matthieu, Marc, Luc, Jean. 4 Évangiles, ça prend quelques heures. Côtoyer cet homme-là comme ce brigand a côtoyé Jésus. Et vous allez voir ce que ça peut produire comme admiration chez vous. Ça ne va pas nécessairement tout régler, mais vous allez vous poser des questions, je vous l'assure, parce que Jésus est un personnage plus grand que nature. C'est normal, c'est Dieu le Fils. Il est plus grand que nature. Il est plus grand que la nature. Mais j'ai trouvé ça intéressant comme réponse. Et ce brigand-là, en étant à côté de Jésus, a pris la mesure de sa personne. C'est ça qui est troublant un peu avec Jésus, c'est quand tu lis les Évangiles, il y a un moment où tu commences à regarder à toi, tu regardes à Jésus, puis tu te dis, ça ne marche pas mon affaire. Puis ça peut devenir très, très lourd. Hein? Il y a beaucoup de gens qui, pour eux, l'expérience du christianisme est une expérience morale. Pour eux, le christianisme, c'est une question de moralité. Ils regardent Jésus comme un modèle. Jésus est un modèle que tu ne pourras jamais parfaitement imiter. Donc, si tu dis, OK, le christianisme, c'est suivre Jésus puis être comme lui. Au Québec, on dit, tu t'offres pas. Tu vas te décourager, mon ami. Puis si tu commences à te prendre au sérieux puis à dire, hey, en fin de compte, je pense que je commence vraiment à lui ressembler, je commence vraiment à être hot. Mais rappelle-toi les chefs religieux qui étaient là. Ils se trouvaient très, très hot dans leur religion. Et ce que ça a donné, c'est qu'ils ont livré Christ pour être crucifié. Fait que le moment où tu vas commencer à penser que tu es vraiment hot, tu vas commencer à être vraiment dangereux. Arrête de parler de Jésus. Parce que tu n'es déjà plus en train de présenter l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais cet homme-là, en côtoyant Jésus, a pris la mesure de ce qu'il était, puis a dit, ça ne tient pas la route. Et il a expérimenté ce que la Bible appelle comme la repentance. La repentance, c'est un changement de disposition du cœur. C'est un revirement dans ton cœur où tu dis, je pense que je ne m'appuierai pas sur moi, il faut que je revienne à Dieu, je me suis éloigné de Dieu. Et ce que je trouve intéressant, c'est la manière que cet homme-là va s'adresser à Jésus. Dans certaines traductions, le mot « Jésus » est présenté avant. J'aime bien la sommeur, ça me semble être plus près du grec. Je vous le lis. « Puis il ajouta, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » C'était plus simplement le Christ ou celui de qui était dit qu'il était le roi des Juifs. Hein? Il y avait un enseigne au-dessus de sa tête. Celui-ci dit qu'il est le roi des Juifs. Celui qu'on appelle le roi des Juifs. Mais là, à ce moment-là, il dit, non, Jésus, souviens-toi de moi. Et je pense que plusieurs d'entre nous, on peut s'identifier à ce moment où, dans notre cheminement de foi, le Dieu distant, le Dieu éloigné est devenu Jésus. La prière, ma manière de m'adresser à Dieu a changé parce qu'il est devenu mon Seigneur, mon Jésus. Comme dans le vieux cantique, hein, « Mon Jésus, je t'aime ». Et pour cet homme-là, il y a un moment où il s'est tourné vers Jésus puis il a dit « Jésus, souviens-toi de moi ». Il y a un changement de cœur. C'est ça qu'on appelle la repentance. Pour nous, on associe souvent la repentance avec des fruits dans ta vie. Et c'est vrai, s'il y a un changement de cœur, s'il y a un changement de disposition de cœur, à quelque part, ça va se traduire dans ta vie. Si tu dis, écoute, moi je suis chrétien, mais que ta vie ne change pas du tout, c'est pas que je vais te dire que tu es un mauvais chrétien, c'est que je vais te dire, peut-être que tu devrais te poser des questions. Est-ce que vraiment tu as rencontré Christ? Il y a quelque chose à quelque part qui va changer, il y a une trajectoire qui commence à changer. Tu ne deviens pas parfait du jour au lendemain, tu ne seras pas parfait avant d'aller vers Christ. Mais il y a un changement de trajectoire. Dans le cas de cet homme-là, le seul changement de trajectoire qu'il a pu faire, c'est son attitude envers Jésus. Vous comprenez qu'il n'a pas eu le temps d'aller à l'église, à la synagogue le samedi suivant? Il n'a pas eu le temps de se racheter, de faire des bonnes œuvres. C'est pas l'histoire de Zachée. Hein? Zachée, lui, écoute, il a remis de l'argent, c'est un voleur. Fait qu'il en a remis de l'argent. Celui-là, non, sa mort, c'est aujourd'hui, là. Et donc, la repentance, je trouve que c'est super bien illustré. C'est un changement de cœur. C'est une disposition de cœur qui va produire des fruits. Ça va produire un changement de vie si j'en ai l'opportunité. Mais ces œuvres-là ne vont pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est ton changement de cœur. C'est ta manière de regarder Jésus, ta manière de t'adresser à lui. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans les Écritures, on lit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est un être humain qui s'humilie. Dieu est allergique aux orgueilleux et est très sensible aux gens qui s'humilient. Et cette scène-là, écoutez, c'est la plus belle preuve que tu peux avoir de la sensibilité de Dieu à un cœur qui est repentant et qui n'aura pas le temps de rien faire de bon, sinon que de croire. Cet homme-là passe d'une vie de brigand, un criminel, un meurtrier, quelqu'un qui avait joint sa voix à la foule pour insulter Jésus, c'est ce qu'on voit dans Matthieu, puis en côtoyant Jésus à côté de lui, en regardant son attitude, il y a un changement de cœur. Et c'est fou de voir, simplement dans ce qu'il dit, tout ce qu'il a compris sur Jésus. C'est vraiment pas banal. Il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Ça veut dire qu'il réalise qu'il y a un contraste énorme entre lui et Jésus, entre lui et Dieu. Ses yeux se sont ouverts, il a perdu son arrogance, il est devenu humble devant Dieu. Il dit à son collègue de crucifixion, il dit « Écoute, pour nous, c'est juste d'être crucifié ». Il vient de se positionner en disant « C'est juste, c'est la justice qu'on soit là ». Mais lui, il est innocent, il ne mérite pas d'être là. Quel moment de lucidité incroyable pour cet homme. Il réalise qu'il est coupable devant Dieu. Pour avoir ce changement d'attitude envers Jésus, il faut que je réalise que je suis coupable devant Dieu. Et il est conscient que Jésus est le roi messianique annoncé, pas simplement à cause de l'enseigne, mais il fait une déclaration de foi. Hein? Il dit, Jésus, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Il est en train de déclarer que Jésus-Christ est le roi des Juifs qui est annoncé et que le retour de ce roi qui est annoncé par les prophètes, la parousie, son retour, allait se produire. Et il y a cette déclaration de foi extraordinaire. Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Et Jésus est touché par sa déclaration de foi. Jésus voulait pardonner, hein? Jésus avait dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Jésus, lorsqu'il a fait cette prière-là, il a prié pour tous ces gens-là, il a prié certainement pour les deux brigands qui sont là, qui l'insultent. Il prie, puis il dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Personne ici sait ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne réalisent pas que je suis Dieu le Fils. Je suis en train de mourir, on est en train d'accomplir les prophéties. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer ici. » Même ceux qui n'étaient pas en train d'injurier Jésus, ne comprenaient pas ce qui se passait là. Même les disciples qui, je veux dire, ils ont peur, ils se cachent dans la foule, ils ne veulent pas être identifiés avec le Christ, ne réalisent pas ce qui est en train de se passer là. Ils ne savent ce qu'ils font. Jésus veut pardonner à tout le monde. Mais pour autant qu'on sache, Jésus va pardonner à un seul des deux brigands. Jésus veut pardonner. Il veut vraiment pardonner et t'amener avec lui dans son royaume, m'amener avec lui dans son royaume. Écoutez, je ne peux pas douter de ses intentions. Il est sur la croix, il est crucifié, il est en train de mourir. Je veux dire, s'il y avait un moment où il aurait pu dire, « Bon, OK, laisse-les mourir. Là. Regarde ce qu'ils ont fait. » Je veux dire, regarde. Non, il est là, il est en train de mourir, complètement méprisé, complètement incompris. Il est en train de prier pour la foule qui est là parce que Jésus veut pardonner. Il veut te pardonner, il veut me pardonner. Mais un seul des deux brigands, pour autant qu'on sache, va être pardonné. Et c'est celui qui va se tourner vers Christ. Voyez-vous, Jésus est juste, il est gracieux et il est roi. Il est juste dans le sens qu'il était innocent. Et lorsqu'on recoupe toutes les quatre évangiles ensemble, puis on va chercher juste les témoignages des gens autour, on a 6 témoignages de personnes qui disent « Non, mais il est innocent. » Pensez à Pilate, lorsque Pilate doit se prononcer, puis il dit « Qu'est-ce qu'il va faire? Hein? » Il va s'en laver les mains, puis il va dire « Moi, je suis innocent du sang de ce juste. » Il n'est pas innocent du tout, là, parce que tu ne peux pas te laver les mains comme ça. Mais il confesse que Jésus est innocent. Il ne voit pas en lui le mérite d'être crucifié. Le centenier à la fin, certainement cet homme était le Fils de Dieu, le soldat romain qui est là, qui s'assure que tout va bien se passer. Au moment où Jésus meurt, certainement cet homme était le Fils de Dieu. Et ce brigand qui est à ses côtés reconnaît son innocence. La différence entre toi et moi est Jésus-Christ. La différence entre nous et Jésus-Christ, c'est que lui n'a jamais péché. Et nous sommes pécheurs. Et tu as besoin d'arrêter de voir les pailles dans les yeux des gens autour de toi puis de voir les fautes de tout le monde autour de toi pour reconnaître que toi-même, tu es pécheur. Puis reconnaître que Christ est sans faute. Jésus-Christ était innocent. Et si tu doutes de ça, moi, je t'encourage, fais-toi le plus beau cadeau que tu peux te faire à Pâques. Lis les Évangiles. Prends quelques heures. Ça peut changer non seulement ta vie ici-bas, mais ton éternité. Jésus est innocent et il désire nous pardonner. Il fait cette prière-là pour les gens. Et enfin, Jésus est roi et il déclare une parole extraordinaire à cet homme-là. Il lui dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Et le paradis, c'est pas très clair. Il y a deux autres occurrences de ce mot-là. Deux autres fois, le mot apparaît dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse, entre autres. Puis ce qu'on peut comprendre, c'est lorsqu'on meurt juste en attente de la résurrection, hein? Parce que les êtres humains vont vivre éternellement avec un corps. On n'est pas simplement un esprit après la mort. Mais en attente de cette résurrection, on va dans la présence de Dieu. Et on entre dans ce bonheur-là. Et Jésus lui déclare, « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi au paradis. » Il y a un prédicateur que j'aime beaucoup, Alistair Begg. Il a fait une prédication où à un certain moment donné, il a raconté l'histoire de cet homme-là. Puis je vais juste essayer de vous relater un peu. C'est tellement bien fait. Je l'ai mis sur mon compte Facebook. Vous allez l'écouter. C'est touchant. Parce qu'il s'est posé la question, mais qu'est-ce que cet homme-là, comment il a réagi quand il est mort? Ce criminel-là à qui Jésus dit, « Aujourd'hui, je te le dis, tu vas être avec moi au paradis. » Imaginez qu'il arrive de l'autre côté. Là, il y a un ange qui l'accueille. Il voit arriver, c'est un criminel. Il dit, « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici. » Ben, il dit, « C'était un chrétien? » Non. « Tu es allé à l'église? » Non. « Tu t'es fait baptiser? » Non. « Tu étais membre d'une église locale? » Non. « Tu lisais ta Bible, tu allais à la synagogue? » Pense pas. « Tu as fait du bien dans ta vie? » Pas tellement, non. « OK, tu as eu le temps de te racheter avant de mourir? » Pas vraiment. OK, on va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. Si tu es ici, c'est parce que tu as rencontré Jésus. Donc, tu comprends c'est quoi être justifié par la foi. Pourquoi tu parles? Pourquoi tu es ici? Je ne sais pas. Le gars qui était sur la croix à côté de moi m'a dit que je pouvais venir. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait. Il n'a pas pu faire d'œuvre. Il n'a pas pu faire du bien. Et voyez-vous, on doit garder cette attitude-là tous les jours de notre vie jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous chercher. Quand tu vas rentrer au ciel si tu es chrétien, quand bien même ça ferait 50 ans que tu es chrétien, tu es dans une église locale, tu t'es fait baptiser, tu sers le Seigneur, tu fais des bonnes œuvres. Hein? Jésus dit... Faites le bien afin que les hommes voient vos œuvres. Glorifie votre Père qui est dans les cieux. Oui, les chrétiens sont appelés à faire des œuvres bonnes. Mais sais-tu quoi? Tout le bien que tu vas faire sur la terre ne te rendra pas plus juste que ce brigand-là au jour où il est rentré au ciel. Tu n'auras rien de plus à offrir pour avoir ta passe pour rentrer dans le paradis que ce brigand-là. Rien de plus. Toutes les bonnes œuvres que tu vas avoir faites ne changeront rien à ton statut. C'est l'invitation de Christ qui te qualifie pour entrer au ciel. Lorsqu'on rentre au ciel, on est aussi coupable et aussi gracié que ce brigand-là ce jour-là. C'est incroyable, hein? Et il y a toute une ironie dans le passage parce que l'autre brigand disait à Jésus, « Si tu es le Christ, si tu es le Messie, si tu es le Sauveur des Juifs, sauve-toi toi-même. » Et sauve-nous. Bien, Jésus l'a fait. Il a sauvé celui qui a cru vraiment qu'il était le Christ. Et il l'a amené avec lui au paradis. Je vais inviter la chorale à venir me rejoindre à l'avant. On est tous d'un côté ou l'autre. C'est peut-être pas aujourd'hui que tu vas prendre une décision. Peut-être que tu as pris ta décision il y a très longtemps. Mais on est tous d'un côté ou l'autre. On peut tous s'identifier avec un des deux brigands, quel que soit notre âge, je l'ai dit. On est pécheurs, puis c'est pas compliqué de savoir qu'on est pécheurs. On commet des péchés très tôt dans notre vie. Je t'invite, si tu veux voir clair dans ta vie, à commence à l'extérieur, regarde la foule, comme si tu avais été là à l'époque. Regarde la foule, comment elle se comporte. Regarde les gens de ta génération, comment ils agissent. Il y a certainement plein de bonnes choses, mais regarde ceux de ta génération, puis commence à regarder les failles, les péchés de cette génération. Puis ensuite, regarde à ta vie. Pose-toi la question, est-ce que toi, tu as adopté certains de ces péchés-là? Puis ensuite, regarde à Christ. Regarde à Jésus. Contemple Jésus-Christ, qui est plus grand que nature, qui est innocent, qui est beau, qui est bon, qui est sur la croix, crucifié, qui prie, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et choisis de croire en Jésus-Christ. Choisis de croire en lui. Dans ton cœur, tu vas savoir que tu crois en lui quand Jésus va devenir ton Jésus. Et que son esprit va te dire, tu es un chrétien. Tu peux mourir, tu peux partir maintenant n'importe quand. Et tu sais que de l'autre côté, quand tu vas arriver et qu'on va te demander, qu'est-ce que tu fais ici? Tu vas répondre, mais Jésus m'a dit que je pouvais venir. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient t'adorer. Seigneur, tu es mort sur la croix, tu es ressuscité le troisième jour, tu règnes au ciel et tu règnes dans mon cœur, dans nos cœurs. Seigneur, tu règnes dans les cieux et sur la terre, tu es roi des rois, mais tu règnes en nous par la puissance de ton esprit qui habite en nous. Seigneur Jésus, on vient t'adorer parce que tu as donné ta vie en sacrifice pour nous. Seigneur, alors que tu es sur cette croix et que les gens se moquent de toi, tu pries pour le salut de leur âme. Tu pries afin qu'ils soient pardonnés, Seigneur. Seigneur, on veut t'adorer, tu es absolument merveilleux. Tu es absolument extraordinaire. Et je te prie, Seigneur, pour chaque personne ici ce matin, chaque personne qui va écouter ce message, Seigneur, accorde-nous cette grâce d'entrer en nous-mêmes et d'évaluer où nous en sommes. Comme tu as été bon pour ce criminel qui a pu faire pour toute œuvre seulement que se tourner vers toi, Seigneur. Il a simplement arrêté de t'injurier et il t'a demandé de penser à lui. Seigneur Jésus, pense à moi. Pense à moi, Seigneur, lorsque je quitterai cette terre et attends-moi de l'autre côté, Seigneur, sur l'autre rive. J'ai tellement hâte de te prendre dans mes bras, Seigneur. Amen. Amen.